pas ton frère s'il se nettoie, neige à Noël, pas qu'au balcon.
De bandes atmosphériques et d'accidents atmosphériques.
Arons, numère Trissu 4 en sac. Boboul. Le 18 janvier, de Vizou. Poulandry, fratisserie, lèche, bandeuse, filomé, boutrimaille.
J'ai revu trois fois cette semaine.
Si Prague a perdu son âme et son poète, ton cœur s'est brisé comme un verre qu'on jette.
Poulandry, fratisserie, lèche, bandeuse, filomé, boutrimaille.
J'ai revu trois fois cette semaine.
Cambaliture à Carfessé au dernier qui vous mettra. Oxymore, votre magazine du lundi soir. Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Oxymore, le magazine littéraire du lundi soir. Alors, ce soir, avec nous, toujours fidèle, Leïla Boutaleb. Et ce soir, vous aurez le plaisir de l'écouter en quelque sorte de façon quasi exclusive, puisqu'elle nous présentera quelques passages de plusieurs publications. Alors, Leïla, nous allons commencer par un roman dont tu as déjà présenté quelques passages il y a 15 jours.
Il s'agit du romancier Youssef Tounsi.
Oui.
Exactement. Et qui, avec ce roman intitulé « Face au silence des eaux », Youssef Tounsi nous livre un texte dur et poignant. Un exutoire dérangeant face à notre condition humaine éphémère, où seul l'amour et la vérité plaident en notre faveur.
Et ce n'est pas sans correspondance avec la réalité tragique que nous venons de vivre en France dernièrement. Donc, un roman nous aide à élucider notre réalité. Donc, il y aura aussi de la poésie. La poésie aussi procède de cette interrogation de la réalité. Et nous allons revenir à travers un autre recueil à Tahar Bekri, poète d'origine tunisienne, que nous avons eu le plaisir d'avoir en ligne direct
la semaine dernière
et donc qui nous a entretenu de son travail et de ses impressions et de ses commentaires à propos de la réalité ambiante qui prévaut aujourd'hui en France.
Donc inspiré par son voyage en Turquie sur les traces du grand poète de l'amour Yunus Emre, dont nous vous lirons quelques extraits tout à l'heure. Il affirme du reste avec modernité la liberté humaine. Tahar Bekri.
Et je crois que le maître mot de cette édition sera amour, puisque tu vas nous proposer aussi deux recueils de poésie.
L'un de Sabrina Chalel, une poétesse algérienne, et une autre, Je m'excuse pour le bonheur, ça c'est un titre magnifique, Saïda Othman Tolba, c'est son nom de famille, je pense. Et elle dit, Je m'excuse pour le bonheur, qui sonne comme un vers de Jamal Amrani, qui est mort il y a bientôt 10 ans, je crois, 10-11 ans, et l'homme insulaire à qui Saïda avoue une grande admiration.
9 ans, plus exactement. En mars. Ça fera 9 ans que Jamal Amrani nous a quittés. Et donc, les auditeurs toulousains ont eu l'occasion de l'écouter sur les ondes de Canal Sud de Toulouse. Et donc, voilà, place à Leïla, place à la littérature.
Ainsi qu'à la musique.
Et la musique, bien sûr.
Merci infiniment. Donc, je commence par Youssef Tounsi. La rêverie les occupa des années durant. Les liens entre eux s'étaient distendus. Chacun empruntant son chemin, ils prirent de l'âge et du tempérament. Les luttes syndicales et estudiantines étaient sévères. Elles pouvaient conduire les plus en vue à des séjours plus ou moins fréquents en prison, avec ou sans période de vie clandestine, pour agrémenter le tout. Les difficultés de tous les jours étaient banalisées, et le grand bonheur de participer au grand soir suffisait à atténuer les peines. Rien ne pouvait les contraindre à envisager les événements autrement que de la manière qu'ils les avaient imaginés dans leur jeunesse. Plongés dans la ferveur de l'action, ils ne virent pas les nuages s'amonceler au-dessus de leur tête, mais la bête immonde, dissimulée dans les ornières du temps, ne s'était résignée en quoi que ce fût. Elle guettait au détour du chemin, prête à bondir sur eux et leurs amis. Elle exultait au-dessus de la tête de ses victimes naïves, véritables offrandes au sacrifice ultime. La violence aveugle, recouverte des oripeaux de la religion, marqua son territoire en l'irriguant du sang des justes, anonymes ou braves mêlés. Et au bout de quelques mois de ce rite, sacrificiel, occulte, du mardi ou du jeudi cruel, rouge du sang répandu sur les routes et les chaumières, ils se retrouvèrent avec des centaines d'autres condisciples, amis et camarades, tous désignés à devenir le prochain sur la liste macabre de l'abattage ritualisé par de sombres officines sorties de l'obscur arbitraire. La catastrophe semblait être signée. Des sous-traitants non conventionnels agissaient en appui direct ou par la ruse pour mettre en branle des auteurs désignés pour régler leurs comptes. La bourrasque pouvait vous arracher un proche ou un éminent membre d'un corps social ébranlé par les éructations de l'histoire ou tout simplement un homme, une femme, restait sourd à leurs menaces et vitupérations. Ils s'étaient retrouvés en cortège cette fois-là, à l'entrée officielle du cimetière, la grande porte du nord, accompagnant la dépouille d'un des fils prodigues du quartier, que la mort avait dédaigné dans un précédent combat. Il portait à bout de bras, tour à tour, le corps meurtri, enveloppé des deux bannières de l'espoir. Pourquoi s'entêtait-il chaque matin à aller prendre lui-même son pain, son lait, son journal ? Combien furent-ils, marchant les uns sur la trace des autres, à oser formuler cette question ? La gorge nouée, le cœur endolori, comment a-t-il pu croire une fraction de seconde qu'il lui pardonnerait et les défier quotidiennement dans le regard des habitants du quartier, son quartier ? Leurs retrouvailles eurent lieu, au beau milieu de la promesse, de la procession engourdie par la souffrance et la désolation. Une parcelle de cette humanité livrée en pâture aux séditieux qui hantaient les ténèbres d'ici-bas. Les uns avaient juré d'en expurger les murs et les ruelles, les autres succombaient à la traîtrise, brûlant pour dissiper les ténèbres. Ils tombaient pour expier devant l'autel d'une foi trompeuse, promesse éhontée d'un paradis bondé de houris prometteuses. Ils marchèrent côte à côte, peut-être en souvenir de leur jeunesse. J'espère que tu prends suffisamment de précautions. Ils ne te feront pas de cadeaux, tu sais, lui glissa-t-elle à l'oreille, tout en essayant de lire à la dérobée les traits de son visage, durci par l'épreuve. Le soleil était timide sur les arbres, l'ombre discrète et la fraîcheur des allées du cimetière paisible, toujours accueillante. Les bordures avaient été refaites avec soin, comme on sait si bien le faire ici quand on accueille le visiteur. La blancheur, pour en souligner la pureté des lieux, la sérénité pour marquer une forme de reconnaissance et recevoir dans la dignité la dépouille de l'enfant chéri du quartier. mais rebelle impénitent. Oui, les précautions d'usage, fit-il en essayant de la dévisager à la dérobée. Passé un moment, il la regarda avec une infinie tendresse, sans se départir de son profond tourment, le visage sec, les yeux noirs pétillants et les cheveux ramassés, comme initiés aux circonstances. Son port altier n'avait pas été égratigné par ces dernières années, si pénibles pourtant. Une larme chaude perlait le long de la joue gauche, celle qu'elle lui offrit un peu absente. Pourquoi es-tu si soucieuse ? S'avisa-t-il de lui demander. Je suis plutôt triste de voir partir de cette façon les meilleurs d'entre nous. Triste parce que nous sommes résignés à nous faire élaguer comme ces arbres au feuillage voluptueux qu'on choisit d'abattre malgré leurs veines pures et leurs lignes remarquables de rectitude. C'est du bon bois d'ouvrage. La lame va les abattre un à un, ainsi qu'en a décidé l'opérateur en charge de la coupe, supprimant les troncs qui gênent leurs congénères, faire de la place, un point c'est tout, sans veiller à choisir des repousses vigoureuses pour affronter les rigueurs des temps à venir. Une légère brise s'insinua à travers les allées où s'entassaient des centaines de personnes venues de toutes parts rendre un dernier hommage à celui qui scandait « Demain ». Reste toujours à faire. Viens chez moi quand tu veux. Je te grimerai de telle sorte que personne ne pourra plus te reconnaître après. Il ne répondit pas et continua à la dévisager un long moment, comme s'il voulait garder cette image de générosité. Pourquoi insiste-t-elle tant pour me grimer ? D'où lui vient cette idée de me métamorphoser le visage, faire porter un masque à son ami pour le préserver ? Y a-t-il là comme une prémonition d'un futur insaisissable, mais qu'elle seule était en mesure de ressentir, elle, justement, dans ce cimetière, les furtifs baisers d'antan ? Je peux t'héberger aussi, tu le sais, ajouta-t-elle, pensant déceler chez lui une sorte d'hésitation malvenue. Il tenta de la rassurer vainement. Des mots brûlants d'amitié jaillissaient, sans lien véritable entre eux. Des phrases incohérentes, la gorge nouée par la douleur. Dans ses yeux noirs brillait une flamme d'espoir. Elle continua à l'interroger, sans attendre une improbable réponse, sereine. Avec juste un peu de fierté, elle patientait comme si les pleurs et les larmes autour d'elle ne faisait que la renforcer dans sa certitude qu'il échafaudait une nouvelle tentative pour fuir ses questions. Merci, ça va pour l'instant, mais je vais réfléchir à ta proposition. Pourquoi ne pas me grimer pour passer inaperçu ? Cette idée le tarauda longtemps, pendant qu'elle s'éloignait avec des amis sans le vouloir vraiment. Le petit cimetière du quartier était bondé à présent. On se pressait autour du trou, taillé dans cette terre chérie, ouvert, béant, un gouffre qui se préparait à avaler l'homme, égorgé au pied de l'immeuble, alors qu'il allait rapporter, comme tous les matins, son lait, son pain et son journal. Le soleil dardait de ses rayons rougeoyants, le ciel étonnamment dégagé à l'instant de la séparation, quand la foule commença à évacuer les travées du cimetière. Des champs de liberté couronnaient cette marée humaine, dont le flot impressionnant semblait constituer un puissant barrage dressé devant l'horreur et la brutalité. Aucun nuage n'osait braver cette force déterminée, mais tellement en décalage, tant le danger était inscrit dans l'ordre des choses. Il avançait, d'un pas lent, parmi la foule, où il reconnaissait des visages amis bouleversés, s'éloignant vers leurs abris éphémères. Un regard, un salut discret, profond, trahissait une marque de solidarité dans la tourmente. « Tu devrais partir, toi. Tu t'es trop fait remarquer ces derniers temps. Prends garde. Ils n'auront aucune pitié. Ne leur facilite pas les choses. » Son ami, des lectures croisées, de l'intertextualité, le stratège amateur n'eut aucune réaction. Il avait plein de projets, laissa-t-il entendre en prenant le temps de murmurer quelques mots avec sa parcimonieuse et précise habitude. « Non, je n'ai pas besoin de partir. J'ai encore affaire ici. » ses paroles feintes, jetées à la hâte, avaient un goût amer. Elle cachait mal le désarroi perceptible dans le ton de sa voix, mais il lui fallut nier l'évidence, il lui fallait partir, peut-être plus tard, quand il aurait accompli ce qu'il avait de plus pressant à faire. Mais partir, jamais. Il entendit partir, après. L'image se dissipa peu à peu, pour laisser place à une autre, encore plus fugace, d'une tristesse qui vous laisse un goût d'amertume sur la langue et qui vous empêche de respirer. Ils sont nombreux à être partis depuis l'hiver, se disait-il, chacun à sa façon, le plus souvent en prenant soin de rester discret jusqu'à la fin, quelle qu'elle soit, pour ne pas attirer l'attention sur soi d'abord, puis sur les membres de la famille, les proches, les amis menacés. Faire en sorte que le départ soit totalement ignoré du voisinage pour éviter d'alerter les mouchards, les tueurs postés à l'affût. Partir. Cela pouvait se faire en déménageant pour changer de rue, de quartier, mais aussi se transporter dans une région paisible, loin des grands centres urbains. Partir. C'était aussi s'isoler dans un mutisme presque aveuglant pour rejoindre le monde des anonymes, passer inaperçu le temps que les choses reprennent leur cours ordinaire. Le médecin, à la voix assurée légère, était parti, lui aussi. Le médecin, à la voix assurée et légère, était parti, lui aussi. La voix chaude du Mödzön ne s'élèverait plus pour appeler au rassemblement des croyants. Peut-être l'avait-on poussé à partir, à disparaître en quelque sorte, pour ne plus gêner, lui aussi. Quelques jours auparavant, il était venu rendre visite à son ancien professeur. « Tant que je suis présent, tu n'as pas à t'inquiéter. Je connais les principaux incitateurs de la violence. Je leur mène une guerre sans merci. Chaque fois qu'ils vilipendent les tiens, qu'ils menacent de s'en prendre à quelqu'un de tes proches amis. Mais si tu apprends mon départ, alors prends garde. Ils ne t'épargneront pas. Ils ont juré de commencer par t'éliminer, avant de décimer tes semblables. L'intonation de sa voix mesurée devenait à cet instant grave, solennelle. » La guerre faisait rage parmi les fidèles. Le camp des Illuminés triomphait. Ils l'avaient chassé de leur mosquée emplie de haine, la maison de Dieu, un bunker où s'étaient retranchés les plus redoutables sanguinaires, prêts à porter la lame dans les gorges des nourrissons et le ventre des mères. À force de harangues enflammées, de passions vengeresses, inculquées à nombre de jeunes frustrés, ivres de sermons et de promesses, des récompenses aux plus téméraires, dans l'au-delà. Ici, on n'aime pas, on n'aime plus que les illuminés, les inspirés, les pourfendeurs de l'ordre ancien. Les artistes et les poètes qui pervertissent les foules de fidèles en les envoûtant avec leurs mots acérés et leurs figurations perfides, ceux-là seront chassés de la cité et tous ces musiciens et chanteurs scandent leurs mélodies diaboliques, qu'ils aillent au diable, sinon, terrible menace, jetée à profusion, dans un délire d'anathèmes et d'injures, jusqu'à noyer le pays de pleurs, de larmes et de sang.
Les Américains ont pris soin après le lancement du premier satellite soviétique.
Ça a débuté comme ça.
Ah, petit prince, j'ai compris peu à peu au hasard des réflexions ta petite vie mélancolique.
Je l'ai revu 3 fois cette semaine.
Les poètes n'écrivent plus.
C'est pas ton frère, c'est...
Oxymore, le magazine du lundi soir.
Et d'accidents atmosphériques.
Aronce, numère, trisu 4 en sac. Boboul.
le 18 janvier de Vizy. Poulanderie, fratisserie, lèche, bandeuse, Philomé, Boutrimaï.
J'ai revu trois fois cette semaine.
Si Prague a perdu son âme et son poète, ton cœur s'est brisé comme un verre qu'on jette.
Poulanderie, fratisserie, lèche, bandeuse, Philomé, Boutrimaï,
Mayakovski,
Cobaliture, à Carfessé, au Darnien qui vous mettra.
Vous écoutez Oxymore.
Bekri, inspiré par son voyage en Turquie sur les traces du grand poète de l'amour, Yunus Emre, Tahar Bekri réaffirme, avec modernité, la liberté humaine. Voici donc un de ses poèmes, intitulé « Si tu aimes les oiseaux, ne les nourris pas ». Leurs plumes savent le prix de la liberté à payer. La migration forge leur gosier, la distance rapproche leur corps, leurs ailes déployées balayent les nuages dans le plus fermé des ciels. Si on t'impose l'obscurité, résiste, en t'imaginant un tournesol. Chaque jour se lèvera, grandi de tes pétales, pour éclairer ta lampe. Une goutte d'huile suffit, elle vaut plus qu'une mine d'or. Mais qui voit la souffrance de la flamme quand elle se consume. Si tu veux chercher des perles, remplis ta main d'eau salée. L'eau douce reste à la surface, mais pourquoi chercher des perles quand ta nudité porte en elle ses propres perles? La perle a grandi dans une coquille fermée. Supportes-tu cela, même pour embellir le cou de la reine? Le grand maître disait « Comment peut-on trouver des perles en regardant simplement la mer ?» Sans astrolabe, toute la mer paraît juste une surface. Avec un gouvernail, tu peux la consoler de ta propre errance. À quoi te sert le phare si ton bateau est brisé en mille morceaux? Quand tu appelles au secours, pense à la pauvre terre. A-t-elle jamais appelé au secours? Celui qui descend une pente ne craint pas le gouffre. C'est dans la remontée qu'il faut retrouver ses forces. Comment peuvent-ils promettre le paradis là-haut? Quand ils couvrent ici-bas les femmes de suie, nul éclat de rose sur leurs joues, mais la giclure du sang meurtri. Oui, qui enchaîne les cheveux rebelles, peut-il accoucher les rivières? Les yeux baissés de sa bien-aimée ne soulèveront-ils que la poussière? Dans le voyage, t'appelles, fais une place à ton compagnon. Le parcours peut être long. Les stations sont des haltes pour mesurer le battement de ton cœur. Ne ferme pas tes yeux. Un bel arbre peut surgir entre rêve et éveil ou un souvenir ardent. Tu n'as besoin ni de tambour ni de trompette pour reconnaître les tiens. Laisse cela aux parvenus derrière leurs boucliers. Si tu vois une fumée remonter de la vallée de ton cœur, tu le sais. C'est là ta demeure. Un clapotis sur la vitre suffit pour alléger ta peine. Maintenant que l'orage a moins de fougue, avant de semer dans les sillons, regarde devant toi la terre. pour féconder le champ, il ne suffit pas de labourer ou de jeter des graines. C'est dans l'arrière-saison que germe le plus difficile. L'été, c'est pour la moisson facile. Ne dresse pas d'épouvantail avant d'être sûr que tu es entouré de corbeaux. Quand tu as fini de faucher le blé, laisse quelques épis pour ceux qui sont de passage. Les oiseaux du paradis ont aussi besoin de la vigne. Leur ivresse n'est pas la tienne. C'est l'envolée des raisins tendres qui fait leur nid, non les chasseurs habiles. Tu n'as pas besoin de laurier, mais d'une clé pour ouvrir une porte. Ton geôlier est prisonnier de son maître. Les barreaux ne peuvent retenir tes pensées. Il ne suffit pas de les cisailler pour être libre. Mieux vaut être étranger et libre que chien fidèle avec laisse. Toute la terre peut être ton lit, mais mieux vaut rester éveillé pour saluer l'étoile filante si on limite ta frontière et des ailes de faucon. C'était donc quelques poèmes de Tahar Bekri au souvenir de Yunus Emre, le poète de l'amour turc, bien sûr. Maintenant, nous revenons à la poésie algérienne avec deux femmes, dont l'une, Saïda Oulmano Telba, qui est née en 1979 à Alger. Après une licence en sciences commerciales et marketing et un DES en management de la communication, elle entame une vie professionnelle riche de réalisations multiples. Passionnée d'écriture depuis son plus jeune âge, elle fait ses armes dans un journal où elle participe avec l'écriture de plusieurs petites histoires pour enfants. Adolescente, à l'aise dans la langue de Voltaire, comme celle d'El Moutanabi, elle goûte à la magie de la poésie avec le poète palestinien Mahmoud Darwish, en découvrant ses secrets et en dégustant ses délices avec Georges Sand, Alfred de Musset. Elle découvre la peinture avec les œuvres de Picasso et Baïa, s'intéresse de près aux arts plastiques et réalise quelques toiles hautes en couleurs et regorgeant de messages et de symboles. Voici donc un de ses poèmes intitulé « Soul ». Ce qui de la vie de Majid Kawa est très...
Et très audacieux, c'est une poésie à laquelle on n'est pas habitué de l'autre côté de la Méditerranée, surtout venant d'une femme qui parle de sensualité de façon aussi hardie.
Donc voici le poème intitulé « Soul ». Le jour se lève, moi dans mon lit je rêve, un cri vorace disloque mes entrailles. Pendant que les divines voix matines accompagnent le mutisme jusqu'à son château, le château du silence. Je me fais forte et j'exclus de mon être l'ogresse qui vit pour la déglutition de la chair. Mon corps quitte les draps fourchus, il tombe près de mes petits pieds caressant mon espoir et mon secret, s'évanouissant sur le sol Paris. Un matou est près de moi. Un matou venu de loin, il avait si froid, si peur, il me caresse et je plonge dans sa cupide paresse, sa paresse à lui, lui qui vit, moi qui ne vis plus. Je prenais souvent mon verre rempli d'ivresse et je buvais les infâmes déboires de deux décennies, étouffant de valeur ce qui restait de mon âme bannie. Avant j'exultais souvent, dans un moment de joie et de plaisir, quand je voyais au bout de ma chair mes envies, mes rires et mes désirs maintenant. J'ai causé l'étiolement de ma force. Maintenant je ne suis plus ensevelie du linceul et arrosée d'eau sucrée. Je déroge dans ma salle de bain, mon ventre et mon estomac. Et pourtant, pas loin d'aujourd'hui, j'ai fui. J'ai fui ma tombe. Et je suis sortie avec mon esprit qui réfute mon corps limoneux, sale, visqueux et pourtant morte et saoul, tellement saoul que j'oubliais les petits traits tendres et violents de mon matou. Tremblotant entre mes pensées fiévreuses, j'oublie qui je suis, je sais, autochtone de mon village. Des brises perfides caressant les corps des gitanes qui jettent des sorts où mon tendre matou qui se fait doux et fort. Mais mon village est détruit, je crois que je le détruis à chaque pas. Non, mais ils le détruisent avant moi, ô mon village. Il n'y a que des murs tombés par terre, une douleur lancinante qui m'étrangle et qui me serre. Il n'y a ni brise ni tendresse d'un père, qu'une valise, la pensée rente d'un faune. Je pars, ne me suivez plus, je pars me limoger dans un autre destin. Je vais purger mon âme de toute livrée, libeller les histoires impures et vraies. J'oublierai les pas des rustos et des pleutres, je vais trimer dans un autre continent pour un sou, pour 11 sous 60. Je me nourrirai d'agapes et de poison pour m'ouvrir dans ma mort. J'enverrai mon âme vers le ciel irisé, la couleur lavée par la bruine, là-bas, dans le monde presque limpide, où je fouine. Je suis malade, dans une vie, dans une époque. Je suis mon propre ennemi et ça me choque. Je suis malade et même maussade. Je suis mordu, fini et fade, emprisonné dans un corps de paille, abusé par les géants de grande taille. Je cours au milieu de ma geôle, ne portant qu'une âme trompée, blessée, achevée. Sale et horrifiée, je suis les regards, les paroles acérées, pour épouser le guignon et partir errer. Je remonte le grand mur et je cours vers la forêt, battue, épuisée, je glisse, je tombe du grand rocher, gouttelette d'eau salée sur un visage vadrouille, comme pour faire un péché, célébrant la mort avant de sécher. Des regards tristes sur le corps chiffonné, plus d'éclat de rire ni plaisir raffiné, un couloir de mystère au beau milieu de l'hiver, caressé par la brise perfide, noyé dans une illusoire eau limpide. «
Une insomnia comme l'eau d'une nuit, des larmes jonchant ses joues comme des gouttelettes accrochées aux pierres d'un puits. Dans ce jour, elle porte encore le deuil, mais peut-être bien une lumière est là sur le seuil. Dans le silence des temps perdus, des âmes qui vivent, qui s'apprêtent à crever, comme les bougies illuminantes attendant la fin sur le chevet, la nuit est encore là pour l'écœurer. La pensée d'un monstre, d'un faune, ne fait que l'entourer. Elle dit « Jour du début, quel jour maudit !» Et dans son chemin, errante et étourdie, voulant crier ou bien hurler, s'enfuir et tout quitter, mais elle n'a ni voix, ni force. Tout est si noir, si atroce. Elle se donne la mort à chaque fois et perd l'ombre d'une joie, plongeant dans la lassitude. Voici le dernier poème intitulé « Douleur », extrait de « Je m'excuse pour le bonheur », un recueil de poésie signé Sehida Othman-Tolba. Douleur. Je t'aime. Et je ne sais si je t'aime, mon cœur inanimé et coulant de sève, une plante carnivore froide et frigide. Vide, étiolée, je me mets à rêver, le rêve d'aimer. C'est comme croire à un sphinx. Il existe parfois, mais il n'existe pas toujours. Un morceau de viande gelée, collé à ma charpente osseuse, qui vit des beaux temps jusqu'aux rudes tempêtes des vents. Mon esprit se démesure. Il crache, il boit, il dégorge son estomac et ses intestins, puis il reboit, encore il reboit de ces fontaines si sales. Je crie très fort, et personne ne m'entend, aucun regard, aucune main ne se tend. J'ai mal de mon squir, de cette éternelle maladie écœurante, de ces vies si ennuyeuses, si tourmentantes. Je voudrais tellement disparaître, sans aimer, et enfin mourir en paix.
Les chants des hommes sont plus beaux qu'eux-mêmes, plus lourds d'espoir, plus tristes, plus durables. Plus que les hommes, j'ai aimé leurs chants. J'ai pu vivre sans les hommes, jamais sans les chants.
béni, Marie Birliman, béni Olimana, Chekaramasu.
Il m'est arrivé d'être infidèle à ma bien-aimée, jamais au chant que j'ai chanté pour elle. Jamais non plus les chants ne m'ont trompé. Quel que soit leur langage, j'ai toujours compris tous les chants. Rien en ce monde, de tout ce que j'ai pu voir et manger, de tous les pays où j'ai voyagé, de tout ce que j'ai pu voir et entendre, de tout ce que j'ai pu toucher et comprendre, rien, rien ne m'a rendu jamais aussi heureux que les chants.
Bien sûr, vous avez reconnu Nazım Hikmet, poète turc et communiste, qui nous a quittés en 1962, je crois. Nous poursuivons avec Leïla.
Alors cette fois-ci, un autre poème, après Je m'excuse pour le bonheur, de Saïda Othman Tolba. En voici un autre, d'une plus jeune, puisqu'elle est née en 1990, ce qui lui fait 24 ans, alors que Saïda, elle, était née en 1979, 10 ans de différence. Elle est née à Akbou, dans la commune de Béjaïa. Elle se laisse transporter par la magie des mots et la force des mots pour exprimer ses omissions, ses émotions, ses rêves, ses doutes et sa féminité. Voici donc quelques poèmes de Sabrina Chalel, comme un souffle sur ma nuque. La porte s'ouvrit sur l'obscurité adoucie, à l'instant où l'étoile de son éclat caresse sur les draps, tu étais assoupie, dégustant le moment sous une mélodieuse étreinte. Une ambiance placide enveloppait ton corps d'amant, suspendu à ton souffle. Une folie m'enflammait, tout près, des yeux étincelants, sous une lune voilée. L'envie d'un baiser dérobé, sur des formes enjolivées de ficelles légères, effluves divines, enivrantes dentelles, sueur d'essence, de céleste symphonie, du haut du toucher, ravivant désir torpillé, éclosion opulente, qui à jamais ne se meurt. Je te regarde. Mon ombre délicate fusionnée à ton corps côtoie la folie qui nous enivre. Je badine. Un sourire s'affiche malicieux sur ton visage, j'effleure ta main, subtilement tu trembles. Tu devines mon délire, ici, nulle part, capricieuse ailleurs, et souchant tes silences. Suspendu, tes mots vagabonds m'étourdissent, oui, à l'extrême, c'est divin. Sans délai, en abandon. Quand tu me survoles, insensé, je flaire la démence, je te devine en mes instants intimes, la nuit me consume et ton absence me hume, le luisant des étoiles ne me console plus. Une énième larme glisse, aussitôt un sourire s'immisce, celui de ton visage. L'absurde m'opprime, l'attente est là. Je sais mon envie. Même sans aubade, en noir et blanc, pas de mystère ni de rêverie, juste un regard confus, je suis vide, tu m'achèves. Ce cri, le mien, chaque fois, te devine dans tes accords. Tu m'opprimes, je ne te dis pas non, abandonnant mots et rimes. Je ressens comme un frisbee adossé à ma fenêtre. Je contemple s'élener des vallées baignant dans ses suaires lumineux. Elle se perd tout en décence, derrière un voilage d'organier, elle va disparaître, je ne veux m'assoupir, je songe à elle, fille d'Ève, vertueuse, telle la lune, je l'ai croisée ce matin, si céleste dans sa jupe blanche, son chemisier en satin carmin, insoucieusement déboutonné,
Son madras valse au souffle d'Alizée, son odeur envoûtante, ensorcelante, me mettait en ivresse. Et cette nuit, je ressens encore ce frisbee. Je m'invente une fuite, hors de l'instant maussade, frôlant l'ivresse de ton corps, je me livre et mente. À travers des mots de miel, tu te fais mien, et je me donne aux caresses du dimanche. Je l'ai vu cheminer tout doucement vers l'inconnu, il s'en est allé, oh ma déchéance. Ma conscience a bu du rosé, tard dans la nuit, elle en est saoule. Je crois, la nuit, j'entends ton silence, sans halte, presque éteinte, ton ombre parade encore ici-bas, tout m'échappe, tout passe, sans murmure, tu t'effaces. J'ai le souffle avide à l'aurore, un amour à fleur de l'âme, vu ce charme en masse embrassé par une danse sur ton sofa de sport, dressant divine toile. Je swing pour le tout mon chagrin en déchéance.
Allah Allah ya baba Muslim Malik ya Sidi.
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 Sidi Mansur
ya baba
unchik nzur
ya baba.
Sidi Mansur
ya baba
unchik nzur
ya baba. Allah Allah ya baba Muslim Malik ya Sidi. Allah
¡Gracias! pam 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 pam
thank you.
Oxymore, votre magazine du lundi soir. Nous arrivons au terme de cette édition. Avant de nous quitter, je vous signale que la librairie Terra Nova va commémorer les 10 ans de son existence. Et à cette occasion, elle va développer un programme qui va s'articuler sur 3 jours, le jeudi 29 janvier. Il y aura une table ronde autour de la traduction en question. Que reste-t-il du texte original dans la littérature traduite? À quel artifice les traducteurs ont-ils recours pour recréer l'univers stylistique d'un auteur étranger? C'est autant d'interrogations qui seront débattues lors de cette table ronde, pendant laquelle des traducteurs littéraires ouvriront les portes de leur atelier d'artisans aux lecteurs curieux d'en connaître un peu plus sur les coulisses du passage d'une langue à une autre. Avec notamment Elena Zayas, traductrice de l'espagnol, elle a traduit Leonardo Padura, Guillermo Arriega, Dominique Nedelec, traducteur du portugais, traducteur d'Antonio Lobo, Antunes, Muriel Morelli, traductrice de l'italien, Patrick Charbonneau, traducteur de l'allemand. Alors la rencontre sera animée par Laura Brignon, traductrice elle-même de l'italien, de l'anglais. Elle a traduit Malaparte, Carlo Levi et d'autres. Et puis à 20h30, il y aura une projection, La femme aux 5 éléphants, une histoire qui est transportée par la littérature. Le film est de Vadim Jendreko, qui nous introduit donc dans le jardin secret de la traduction, là où l'œuvre retrouve son inspiration. Vendredi 30 janvier, lecture Ma guerre d'Espagne à moi de Mika Echeber en présence de l'éditrice Lola Montalon, les éditions Milena. Il y aura également une lecture de Palmiro de Luigi Ruscio et les éditions Anarcarsis, texte lu par Nathalie Vino, comédienne. Lecture La maladie de la chair de Bernard Noël, un texte bilingue lu par l'auteur et l'éditrice Mertixel Martinez, édition Incorpore. Et enfin, samedi, le livre objet poétique, vous avez noté le jeu de mots, table ronde, la diffusion alternative, débat autour des limites de la diffusion actuelle et des nouvelles formes à inventer. Allora, come invité, CMDE, Jeff Clack, Anarcharsis, et puis enfin une table ronde, l'édition indépendante engagée. Voilà, nous arrivons bel et bien à la fin de cette édition et je crois que nous vous donnerons rendez-vous pour un lundi prochain.
Les Américains ont pris soin après le lancement du premier satellite soviétique.
Ça a débuté comme ça.